Le salut de l'âme au-dessus de tout. Face à la richesse et à l'intérêt que les hommes lui portent, Jésus manifeste sa liberté. Or, quelqu'un parmi la foule lui dit, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. » Mais il lui dit, « Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou faire vos partages ?» Évangile de Luc 12, 13 à 14. Pour nous mettre encore mieux en garde contre les mirages de la richesse, il nous raconte la parabole du riche qui était fou. Faites attention et mettez-vous en garde contre toute avarice, car lorsque quelqu'un est dans l'abondance, sa vie ne consiste pas dans ce qui lui appartient. Évangile de Luc 12, 15. Aux riches qui pensaient être en sécurité, Dieu dit, « Insensé, cette nuit on te redemandera ton âme, et ce que tu as préparé, à qui sera-ce ? » Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même et n'est pas riche en vue de Dieu. Évangile de Luc 12, 20 à 21. La vraie liberté chrétienne consiste à regarder les biens de la terre à leur juste valeur. Les moyens n'ont pas de maître. Il s'agit d'en user intelligemment pour faire avancer le royaume de Dieu. Une seule richesse valable, celle puisée en Dieu, à la source de toute vie. Jésus nous rend l'espérance en l'homme et ne le rabaisse pas à ce qu'il possède. La confiance en la divine providence. L'âme n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Évangile de Matthieu 6, 25 à 34. Tout au long de ce passage, Jésus nous parle de Dieu. Il veut nous faire sentir qu'avant tout, à notre égard, Dieu est Père. Et voici que de son cœur jaillit les plus beaux poèmes sur la tendresse de Dieu envers l'homme. Tous ces passages ne forment qu'un bloc d'une seule venue. C'est le Père qui lui dicte et lui donne cette unité de cœur. La tendresse paternelle de Dieu à l'égard de nos âmes et de nos corps pouvait-elle être mieux évoquée puis affirmée? Des images toujours fraîches, toujours neuves, et qui enchantent nos cœurs comme elles enchantèrent les cœurs des millions de chrétiens. Avec quelle élévation des pensées ne parle-t-il pas de la providence, de l'âme, des soucis de chaque jour du royaume de Dieu, en ramenant tout ce problème au grand mystère de notre filiation divine. Dieu est notre Père, pourquoi nous troubler, nous préoccuper? Regardez les oiseaux, regardez les fleurs, etc. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. On se sent plein de confiance après avoir écouté ces paroles. Quelle puissance des suggestions dans les exemples qu'il choisit. Dieu semble plus près de nous, plus paternel. Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez et faites l'aumône. Évangile de Luc 12, 9 à 32. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et le ver consument et où les voleurs percent les murs et volent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni teigne ni ver ne consument et où il n'y a pas de voleurs qui percent les murs et volent, car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Évangile de Matthieu 6, 19 à 21. Jésus nous entraîne vers une recherche essentielle. Il nous invite à bien saisir le vrai sens de notre vie et à nous donner à fond à la poursuite des richesses essentielles du royaume des dieux. C'est le désir de notre Père du ciel, car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Évangile de Matthieu 6, 21. Jésus connaît bien le cœur humain. Il sait que nous sommes des passionnés. Nous sommes entièrement pris par ce que nous faisons avec cœur. Jésus nous recommande de bien orienter cette activité et de ne pas la gaspiller pour des futilités. Jésus nous révèle comment Dieu nous aime. Il nous aime comme un père, inquiet de nous voir plutôt préoccupés des futilités qu'avides du royaume. Jésus nous demande une liberté d'esprit, de cœur et d'agir envers l'argent ou les richesses pour devenir des hommes justes, prêts à réaliser la volonté du Père. Face à la mort, veillez. Jésus a réfléchi au problème de la mort, à l'angoisse de la mort qui aboutit presque chez tous les hommes à l'oubli volontaire de celle-ci. Il nous rappelle simplement de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand doit venir le maître de la maison, tard, vers minuit, au chant du coq ou au matin, de peur que venant à l'improviste, il ne vous trouve endormi. Or, ce que je vous dis, à tous je le dis, veillez. Évangile de Marc 13, 35 à 37. La liberté chrétienne nous entraîne à l'accueil de Dieu et à la patience. Dieu ne se révèle que dans l'attente. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de cette vie spirituelle qui constamment nous demande d'être aux aguets pour recevoir l'ami. Soyez prêts, car vous ne savez pas à quelle heure le Fils de l'homme doit venir. Évangile de Luc 12, 40. Car il s'agit bien là du mystère de l'amitié essentielle entre Dieu et l'homme. Et Jésus est au centre du mystère de toute mort. Pensée consolante, c'est lui qui vient chercher tout homme pour l'introduire dans les royaumes et le faire passer à la vie éternelle. Nos vies ne sont pas vides de Dieu. Il nous suffit de veiller et nous sommes sûrs de rencontrer le maître de maison, ce Fils de l'homme qui nous invite à l'amitié. Par conséquent, vous aussi, soyez prêts, car le Fils de l'homme doit venir à l'heure qui n'est pas celle que vous pensez. Évangile de Matthieu 24, 44. C'est l'heure de la rencontre, c'est donc bien l'heure de l'amitié dont nous avons besoin au cours des épreuves et des luttes et pas seulement au moment de la mort. Que vos reins restent sains et votre lampe allumée et soyez comme des hommes qui attendent leur maître à son retour de la noce, afin qu'à son arrivée, lorsqu'il frappera, il lui ouvre aussitôt. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillants. En vérité, je vous le dis, qu'il se scindra et les fera mettre à table et se présentera pour les servir. Évangile de Luc 12, 35. D'ailleurs, le passage de Jésus s'entend d'une manière beaucoup plus large que ce simple passage de la mort. C'est le passage d'un ami que nous aimons retrouver. Et l'attente de cet ami est marquée par des somptueuses images, images si belles que l'on n'ose même pas y toucher, tant leur plénitude nous satisfait, tant le charme qui s'en dégage est puissant. Nous pouvons user en bien ou en mal de notre liberté. Jésus nous confie sa parole, illuminée par la lumière de la foi, mais nous pouvons la recevoir ou la rejeter. La liberté chrétienne ne s'achète que dans la lutte, l'effort, l'attention. Nous sommes libres et responsables de nos actes selon notre conscience et la connaissance qu'elle apporte. Pour ou contre Jésus? Jésus n'est pas venu apporter la paix et la tranquillité, mais la lutte. Tous ceux qui se donneront à lui sans trêve devront lutter contre eux-mêmes et contre les mentalités régnantes. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il fût déjà allumé. Mais je dois recevoir un baptême. Et combien je suis angoissé jusqu'à ce qu'il soit accompli. Évangile de Luc 12, 49, 50. Et Jésus nous avertit de ce qui arrive à tout fidèle disciple au cœur même de sa propre famille. Car je suis venu séparer un homme de son père, et une fille de sa mère, et une belle-fille de sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemis ceux de sa maison. Évangile de Matthieu 10, 35 à 36. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La mentalité des fils et de filles est souvent diamétralement opposée à celle des parents, vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de l'autorité, et de la liberté, etc. Et l'ami du Seigneur aujourd'hui, dans le calme, doit savoir lutter contre les idées reçues pour rester fidèle. Avec le Christ, le chemin de la liberté devient le chemin de la contradiction, car on n'est pas forcément d'accord avec le sien si on suit Jésus et si l'on met en pratique ses paroles. Il y a encore une autre lutte que Jésus annonce. Il s'y engage pour nous tracer le chemin avec toute son énergie. C'est le baptême où il sera plongé, baptême de la souffrance et de la mort, où il s'immerge au moment de sa passion. Sa générosité se dévoile bien là. Il est impatient de se donner et d'être baptisé de ce baptême de sang qui sera la croix. Mais sa mort, qui apporte la réponse de la résurrection, change le monde, le plonge dans la lumière et le feu de Dieu. Jésus brûle d'allumer ce feu dans tous les cœurs. Oui, sa venue allume chez les hommes le feu de l'amour divin, s'ils veulent bien croire en lui et l'accueillir. L'amitié que Jésus nous offre est une amitié somptueuse, digne d'un Dieu. À ceux qui les regardent comme l'envoyé du Père, comme les fils de Dieu, il offre son intimité et salut. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, elles me suivent, et je leur donne une vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous, et nul ne pourra les arracher de la main de mon Père. Or, le Père et moi, nous sommes un. Évangile de Jean 10, 27. Une amitié gratuite, comme un torrent qui se précipite en moi. L'eau vive de la vie éternelle, puisée à la source du Père. J'entends sa voix qui m'appelle à être fidèle à lui, à sa parole. Déclaration solennelle de son identité. Mon Père et moi, nous sommes un. Évangile de Jean 10, 30. Cette unité avec le Père, que Jésus affirme tranquillement, ses contemporains la comprennent tellement bien que devant cette affirmation, ils veulent le lapider. Les Juifs apportèrent de nouveau des pierres pour les lapider. Évangile de Jean 10, 31. Jésus insiste lourdement en affirmant maintenant que ces miracles, il les accomplit en union étroite avec son Père. Je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème, et parce que, n'étant qu'un homme, tu t'es fait Dieu. Évangile de Jean 10, 33. Loin de s'affoler à cette affirmation, Jésus la renforce, car dans sa réponse, il se distingue soigneusement de nous et affirme encore plus énergiquement sa divinité et son unité de vie avec le Père. Car si l'Écriture dit de tous les hommes, vous êtes des dieux, à combien plus forte raison ce fait convient-il à celui qui fait les œuvres du Père et qui est son envoyé? N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Si elle a donné le nom des dieux à ceux auxquels fut adressée la parole des dieux, l'Écriture ne peut être récusée. À celui que le Père a consacré et l'a envoyé, vous dites tu blasphèmes parce que j'ai dit je suis le Fils des dieux. Évangile de Jean 10, 34 à 36. Jésus va donc aller encore plus loin dans l'affirmation de son identité en tant qu'envoyé du Père et son propre Fils. Il insiste sur cette unité entre lui et le Père. Les miracles qu'il opère ses mains témoignent qu'une même vie, une même puissance unissent le Père et son envoyé. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, si vous ne croyez pas, croyez en mes œuvres, afin que vous sachiez et connaissiez que mon Père est en moi et que je suis dans le mon Père. Évangile de Jean 10, 37 à 38. On ne peut être plus clair. D'ailleurs, les Juifs, furieux de son blasphème, cherchèrent donc de nouveau à le saisir et il échappa à leurs mains. Évangile de Jean 10, 39. Jésus enseigne et guérit. Et parti de là, Jésus vient dans la région de la Judée et au-delà du Jourdain. Et de nouveau, les foules se joignent à lui sur la route, et de nouveau, il les instruisait, comme il avait coutume de le faire. Évangile de Marc 10, 1. Jésus aime la foule, et il l'enseigne. C'était irrésistible chez lui. Il enseignait tant il sentait une ignorance profonde en face de la simplicité du mystère de Dieu, son Père. Et il les guérit dans cet endroit. Évangile de Matthieu 19, 2. Il enseignait, il guérissait. Jamais chez lui la science n'étouffe la tendresse. C'est l'homme qu'il aime, l'homme ignorant et fragile, pour lui apporter la connaissance de Dieu et la vie, à travers la santé, prélude de la vie éternelle. Jean évangéliste précise, « Et Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean-Baptiste avait d'abord baptisé. » Et il demeurait là, et beaucoup vinrent à lui. Évangile de Jean 10, 40 à 41. Il y eut connivence entre Jean et Jésus. Jean a si bien décrit son ami, lui l'ami de l'époux, que ses propres disciples et les foules accourues pour l'écouter reconnaissent Jésus comme le sauveur, et ils croient. Jean évangéliste, disciple du Baptiste, rend ce témoignage à son maître qu'il admire. Aussi fait-il dire aux foules, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci, Jésus, était vrai, et beaucoup crurent en lui dans cet endroit. »